à vue d'esprit. Catherine Erard.
S'asseoir et rester en silence pendant 30 minutes, ce n'est pas l'apanage des techniques de méditation orientale. L'Église orthodoxe a perpétué cette pratique qui remonte aux origines du christianisme, aux racines chrétiennes de la méditation. Bienvenue dans cette série qui vous est proposée par Evelyne Auberçon. La réalisation est signée Hélène Ichters. On a parfois l'impression que l'Occident s'inspire de techniques, de pratiques de méditation issues des religions d'Asie. On pense au zen, à la méditation transcendantale. Mais les chrétiens orientaux, les orthodoxes, ont, eux, maintenu vive une tradition de la méditation qui remonte aux origines du christianisme. On en parle aujourd'hui avec vous, Evelyne Auberçon, et avec votre invité, Michel-Maxime Heger.
Michel-Maxime Heger est sociologue, journaliste de formation. Il travaille depuis plus de 10 ans pour Alliance Sud, la communauté de travail des œuvres d'entraide suisse. Et il est par ailleurs orthodoxe et pratique depuis 25 ans maintenant la prière de Jésus, qui est une forme de méditation encore très courante dans l'Église orthodoxe. C'est une quête personnelle qui l'a conduit jusque-là. Il nous en parlera en fin d'émission. Mais pour l'heure, il va nous expliquer ce que c'est que cette méditation appelée prière de Jésus, parfois aussi prière du cœur ou hésychasme. Michel-Maxime Heger.
Effectivement, c'est, je pense, une des pratiques de prière qui est clé de la spiritualité de l'Église orientale. Qui vient d'ailleurs des origines du christianisme. C'est vrai que la prière de Jésus, en ce sens, c'est quelque chose qui appartient à tout le patrimoine des églises et du christianisme, mais qui est resté très vivant dans la tradition orthodoxe et qui est quelque chose qui, d'une certaine manière, complète la vie liturgique, qui est le cœur, la vie liturgique, de la vie eucharistique. Ensuite, vous avez toute la vie ascétique à travers notamment l'importance de la pratique du jeûne. On a de longues périodes de jeûne ou de fréquentes périodes de jeûne dans l'Église orthodoxe. Et puis, il y a ensuite toutes les formes de prière qu'on peut avoir à travers la psalmodie. Et la prière de Jésus, comme prière personnelle, s'inscrit complètement dans cet ensemble. Et elle est le cœur de ce qu'on a appelé l'hésychasme. Le mot hésychasme vient en fait de la racine grecque hésychia, qui veut dire repos, tranquillité. Et l'hésychasme, c'est vraiment la tradition contemplative de l'Église orthodoxe, de l'Église d'Orient, qui s'est développée à partir du IVe siècle jusqu'à aujourd'hui, dont le but est justement l'union à Dieu. Et par hésychasme, justement, l'hésychasme est à la fois, désigne à la fois l'état de repos en Dieu, donc de cette union à Dieu réalisée, mais en même temps, il désigne tout un ensemble qui sont, d'une certaine manière, les conditions ou les pratiques nécessaires pour arriver à cet état. Et parmi ces conditions et pratiques, eh bien, la prière de Jésus, l'invocation du nom de Jésus est essentielle.
Ce que j'entends dans ce que vous dites, Michel-Maxime Heger, c'est que cette pratique de cette forme de prière de méditation, elle n'est pas seulement destinée aux moines, aux moniales, aux prêtres, mais à tout croyant orthodoxe.
Alors elle est au cœur très souvent de la vie monastique, et tout moine va recevoir un canon de prière qui inclut la prière de Jésus, mais c'est vrai qu'elle n'est pas du tout réservée aux moines, et que tout laïc peut être appelé à pratiquer cette prière. Et c'est vrai qu'en particulier, les laïcs, membres des paroisses, mais qui fréquentent des monastères, qui ont un lien vivant avec un père spirituel, eh bien très souvent, ces personnes pratiquent la prière de Jésus à titre personnel, chez elles, dans leur vie quotidienne, à côté de la vie en paroisse et de la participation à la liturgie.
Michel-Maxime Heger, quand on parle de prière du cœur, de quoi on parle exactement ?
Alors concrètement, je dirais, c'est l'invocation du nom de Jésus. L'invocation du nom de Jésus, le nom étant d'ailleurs, qu'on peut dire seul, Jésus, Jésus-Christ, Kyrie, Kyrie eleison, ou qu'on peut justement intégrer, insérer dans une formule un petit peu plus développée. Et on préfère d'ailleurs parler plutôt de prière de Jésus pour mettre l'accent sur cette invocation, la prière du cœur étant en fait d'une certaine manière l'état ultime de cette prière quand véritablement elle jaillit du cœur profond.
Concrètement, comment ça se passe ?
Alors là, je peux vous parler de ma pratique personnelle parce que je pense que, bon, on retrouvera des éléments évidemment analogues chez d'autres personnes, mais c'est vrai que c'est d'abord une prière qui est essentiellement une prière personnelle. Il y a un certain nombre d'indications qui sont données par les textes de la Philokalie, qui est en fait l'anthologie, une grande anthologie de textes sur la prière de Jésus qui court du 4e au 14e siècle. Et puis il y a les conseils qui sont donnés par l'Église et les pères spirituels. Alors très concrètement, ce qu'on recommande, eh bien, c'est d'avoir un petit coin chez soi, une forme de petite chapelle, en guillemets, avec une icône, avec une veilleuse qu'on peut allumer, on peut faire brûler un petit peu d'encens. Ensuite, bon, au niveau de la posture, certains prient debout. C'est vrai que pendant très longtemps dans la tradition, on a prié debout. D'autres vont s'asseoir. Personnellement, moi, je m'assieds sur un coussin de méditation. Et puis, alors, très souvent, on va, avant même de commencer à invoquer le nom de Jésus ou à dire cette formule, à répéter cette formule, on va faire un certain nombre de prières qu'on appelle les prières initiales. Ce sont en fait des prières qui sont assez codifiées dans l'Église orthodoxe et qui commencent par une invocation à l'Esprit-Saint, suivie par différentes formules trinitaires, puis le Notre Père et finalement le psaume 50. C'est une façon, disent les pères, d'échauffer le cœur. Et puis ensuite, on pourra se prendre une posture pour être à l'aise, dans une bonne verticalité. Ce qui est important, c'est d'avoir une position où on peut vraiment rester immobile. L'immobilité du corps, c'est important à mon sens, d'être vraiment dans un bel axe entre la terre et le ciel. Et puis ensuite, on va commencer, alors ça dépendra du degré où on est, à répéter, réciter cette prière, soit mentalement, soit vocalement.
Michel Maximéguer, quelle est la différence entre ce que vous venez de décrire, qui est vraiment propre à la tradition chrétienne orthodoxe, à une autre forme de méditation de type extrême oriental, de type zen, pour quelque part essayer d'échapper à son mental, en tout cas de le détourner?
Alors je pense qu'il y a entre les deux, si vous voulez, beaucoup d'analogies. Effectivement, le fait d'être dans une position immobile, le fait d'être dans une démarche qui vise une unification intérieure, corps, âme, esprit, hein, parce que nous sommes souvent des personnes très, très éclatées, très divisées. La tradition dit que justement la prière de Jésus, par rapport à cette unification, la tradition des pères dit qu'en fait ce que nous essayons de faire, c'est de faire descendre l'intellect dans le cœur, qui vise justement cette unification intérieure, puisque notre intellect, en particulier notre mental, avec toutes les pensées, a un petit peu tendance à tout le temps se balader dans tous les sens. Donc il faut, et le fait d'avoir justement une formule ou le nom de Jésus permet de rassembler, de recentrer ses pensées sur finalement un seul mot, et ensuite de faire descendre l'énergie de ce mot dans le cœur pour s'unifier intérieurement. Je pense que cette pratique d'unification intérieure, on la retrouve effectivement dans d'autres traditions. Il y a des analogies et chaque type de méditation, aussi des autres traditions, hindoues, bouddhistes, etc., on pourrait dire que voilà, vous avez finalement peut-être les mêmes cadres. Mais simplement, à l'intérieur du cadre, vous pourrez peut-être avoir un autre portrait ou un autre visage. Et dans le cas de la tradition orthodoxe, eh bien, c'est clairement une prière qui est adressée au Christ. C'est une prière qui est christocentrique et qui vise une union au divin, une union à Dieu, à travers cette unification intérieure, mais à travers la personne du Christ.
Vous disiez, Michel Maximéguer, que vous pratiquez depuis de longues années cette prière de Jésus. Qu'est-ce que le fait de la pratiquer a fait bouger en vous ?
Fondamentalement, d'abord, le fait d'avoir une pratique régulière de prière ou de méditation, et je pense que cette régularité, elle est importante, c'est quelque chose qui aide à se construire spirituellement, à avoir une certaine structure. Ça, c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est que la prière en tant que telle, eh bien, c'est-à-dire du moment où on la pratique avec foi, avec beaucoup d'ardeur, de volonté, d'enthousiasme, de désir, elle contribue à, jour après jour, peu à peu, à cette transformation intérieure, dans le sens, d'une part, d'une unification de l'être, d'autre part, dans le sens d'une ouverture de plus en plus grande à la grâce de l'Esprit-Saint, dont on peut commencer à percevoir les effets et la présence. Cette prière, du fait d'invoquer le nom de Jésus, c'est de faire constamment souvenir du Christ, et donc, en fond, d'une certaine manière, d'inscrire de plus en plus le Christ dans notre pensée, dans notre être, dans la chair même de notre vie quotidienne, hein, qui devient une présence intérieure, une présence qui nous accompagne. Et c'est vrai que dans cette prière, il y a un moment où l'on se sent relié. On se sent relié à cette dimension qu'on appelle Dieu et qui nous dépasse. On se sent relié au Christ, mais on se sent relié aussi intérieurement aux autres. Dans la prière de Jésus, très souvent, on va aussi avoir un moment où on va invoquer, prier pour les vivants que l'on connaît, mais aussi on va prier pour les morts. Et il y a vraiment toute cette image théologie du Christ comme corps universel dont nous faisons partie et en fait avec lequel nous allons entrer dans une relation de plus en plus profonde. Et c'est vrai qu'on peut avoir des moments où on sent vraiment, on sent se développer en nous un sentiment de communion, de compassion qui s'accompagne de joie. Mais la prière de Jésus, ça c'est l'autre aspect. Il y a deux aspects dans la prière de Jésus, dans la formule. Donc Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est l'aspect d'élan. Hein, on est dans un élan vers le Christ, on est dans un élan vers le divin. Et puis, dans une dimension d'aspiration et de désir, et puis il y a ce « aie pitié de moi, pécheur » qui est ce moment, en fait, où c'est comme le fils prodigue qui d'un côté retourne vers son père, et puis de l'autre côté, il y a cette phrase où à un moment donné, il descend en lui-même pour prendre conscience de tout ce qui en lui fait encore obstacle à cette présence de Dieu et à la grâce. Et donc, en fait, nous entrons aussi, par cette prière, dans toutes nos fragilités, toutes nos faiblesses, toutes nos obscurités, toutes nos ombres, et ça doit évidemment nous amener à une attitude de grande humilité. Donc je pense que c'est aussi une belle école d'humilité dans ce sens-là.
Avec, j'imagine, des moments aussi plus difficiles, plus délicats, que ce soit parce qu'on n'en a peut-être pas forcément envie de se poser, ou parce que la prière fait remonter des aspects plus difficiles de notre existence.
Oui, alors absolument, et c'est là où c'est aussi important justement d'avoir un père spirituel pour pouvoir en parler avec quelqu'un qui a une plus grande expérience que nous de la prière et de tout ce qui peut se passer pendant la prière. Mais c'est vrai que cette prière peut effectivement faire remonter dans l'être des choses extrêmement profondes, inconnues, oubliées, ignorées, qui peuvent être assez perturbantes et qu'il faut apprendre à gérer. Mais ce qui est, je pense, très très important, c'est que cette descente dans les profondeurs se fait, j'aurais d'une certaine manière, en tenant la main du Christ. On n'est pas seul dans cette descente. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et l'autre aspect, c'est qu'évidemment, on n'a pas toujours envie de prier, on n'en a pas forcément toujours le temps ni l'énergie, et puis il peut y avoir des périodes qui peuvent être plus ou moins longues, qui sont des vraies périodes de désert. C'est-à-dire où ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce sentiment de présence, ce sentiment de communion, d'amour, de joie, eh bien, en réalité, non, c'est une prière qui apparaît très sèche, très stérile. Mais quand on lit les pères qui ont écrit sur la prière et quand on parle avec les pères spirituels, on se rend compte que ce sont des périodes tout à fait normales dans un chemin spirituel. Vous savez, le père Sophronie me disait toujours, donc ce père du ancien père du Mont Athos qui avait fondé ce monastère en Angleterre, qui est une école de prière de Jésus, il me disait toujours, il faut toujours penser à l'histoire du peuple juif. Ils ont ce grand moment de grâce quand en fait les eaux s'ouvrent et ils sortent de l'esclavage et ensuite ils vont avoir 40 ans de désert. Et c'est vrai qu'il y a une pédagogie du désert et que c'est ce qui nous permet à un moment donné aussi de faire un pas et d'approfondir encore plus notre foi et notre désir de Dieu. C'est en cela que, bien sûr, dans la prière, vous pouvez accompagner la prière d'un certain nombre de pratiques qu'on appelle psycho-corporelles, en liant la prière à l'expiration, à l'inspiration. Donc il y a toute une série de méthodes qui existent, mais il ne faut jamais réduire la prière de Jésus justement à une mécanique, à une recette, à une méthode. Ce n'est pas du tout ça. Ça se mêle vraiment dans cet état d'ouverture, de disponibilité, d'attente, d'appel à quelque chose qui sera donné ou qui ne sera pas donné.
Michel Maxime Aiguer, vous avez rappelé que la prière de Jésus dont on parle dans A Vue d'Esprit aujourd'hui a ses racines aux origines du christianisme, mais où exactement? D'où tire-t-on cette pratique?
Alors il y a plusieurs origines. D'abord il y a une origine dans les Écritures, dans la Bible. C'est vraiment là que la prière de Jésus puise ses racines profondes, c'est-à-dire qu'il y a dans la Bible toute une théologie du nom de Dieu, qui conduit d'ailleurs à une forme de culte ou de vénération du nom de Dieu. Alors c'est vrai que nommer le nom, ce n'est pas seulement quelque chose qui sert à désigner une chose ou une personne, mais nommer, c'est en même temps spirituellement manifester, rendre présent celui ou celle que l'on va nommer. Et prononcer le nom, c'est justement entrer en relation avec cette personne, d'une manière personnelle, et donc on pourrait dire d'une certaine manière que le nom est aussi un condensé d'énergie, et c'est pour ça que l'on parle d'une puissance du nom. Et c'est pour ça que vous avez dans les textes, en particulier du Nouveau Testament, on va baptiser au nom de Jésus. Les personnes vont être guéries au nom de Jésus, des miracles vont se faire au nom de Jésus. C'est une expression justement de cette puissance du nom. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que vous allez trouver dans certains textes, je pense en particulier à ce passage chez l'apôtre Paul, de l'épître aux Thessaloniciens, où il dit « prier sans cesse ». Et à un moment donné, au IVe siècle, avec ce qu'on a appelé la naissance justement de l'hésychasme, donc de toute cette tradition de vie contemplative dans l'Église chrétienne d'Orient, avec notamment les pères du désert, eh bien il va y avoir une combinaison de cette théologie et vénération du nom avec cette injonction du prier sans cesse, et ça va justement donner naissance à la prière de Jésus qui va se développer à travers différentes étapes. Alors, une première étape, ça va être celle simplement des pères du désert, qui est une pratique qu'on appelle l'oraison jaculatoire, au sens que ce sont des prières très brèves, fréquentes et jaculatoires, au sens qu'elles sont lancées comme des flèches en fait vers Dieu. Ce sont des formules très courtes, et là on a un témoignage de cette pratique des pères du désert par Jean Cassien, qui est un moine occidental du IVe siècle qui avait séjourné chez ses pères et qui a en fait répondu, fait connaître cette prière en Occident. Ensuite on va avoir une deuxième étape qu'on a appelée l'hésychasme sinaïte, c'est-à-dire en fait qui se passe au mont Sinaï, et qui va se développer à partir et autour en fait du monastère Sainte-Catherine, hein, qui a été établi au VIe siècle sur le Sinaï. Et là, en fait, vous avez tout un courant qui va se développer à travers des figures comme, par exemple, Diadoque de Phocée, qui va dire Il faut crier perpétuellement « Seigneur Jésus » ou saint Jean Climac qui va écrire dans son Échelle Sainte, qui est vraiment un grand traité de spiritualité hésychaste, « Il faut unir la mémoire de Jésus à notre respiration. » Et là, vous avez une prière très brève, collée au souffle. Mais dans cette prière du Sinaï, on a quelque chose qui est encore pas du tout établi, qui est encore très souple, qui est très spontané, avec plein de tendresse et une grande liberté dans l'usage. Et arrive une troisième phase qui va être la phase, en fait, de l'hésychasme atonite. C'est-à-dire que dès le XIVe siècle, au XIVe siècle, Grégoire le Sinaïte vient au mont Athos. Il va raviver la flamme de la prière de Jésus. Et là, au mont Athos, on pourrait dire d'une certaine manière qu'elle va se fixer dans cette formule, une formule établie, invariable. Donc, elle va devenir un petit peu plus rigide. Et puis, on va aussi, à partir de là, développer toutes ces méthodes psychocorporelles liées à une posture, liées à la respiration. C'est ce qu'on trouve dans les textes, justement, par exemple, de Calliste et Ignace Xantopouloi, qu'on trouve dans la Philokalie. Et à partir du mont Athos, c'est là aussi qu'on va en fait avoir la publication, bon, qui va se faire à Venise, mais avec notamment Nicodème Lagiorite et Macaire de Corinthe, qui vont faire cette grande anthologie des textes sur la prière de Jésus et l'hésychasme, qui s'appelle la Philokalie, qui veut dire littéralement amour de la beauté. Et c'est à partir du mont Athos que la prière de Jésus va se diffuser, en particulier dans l'Orient slave, dans le monde russe, avec texte très célèbre à la fin du XIXe siècle, les fameux récits d'un pèlerin russe qui raconte en fait toutes les pérégrinations d'un paysan russe qui, à un moment donné, parce qu'il avait entendu le texte de l'apôtre Paul dans une église du prier sans cesse, va aller chercher des pères spirituels pour savoir comment concrètement on met en pratique cette prière continuelle.
Michel-Maxime Aiguer, vous nous avez décrit ce que c'est que la prière de Jésus. Vous la pratiquez depuis près de 25 ans. Comment vous l'avez découverte ?
Personnellement, j'ai eu toute une phase où j'étais dans la tradition du bouddhisme zen. Je pratiquais le zazen comme chemin de transformation spirituelle. Et d'ailleurs, c'est dans la pratique du zen que j'ai redécouvert mes racines chrétiennes. Et redécouvrant mes racines chrétiennes, eh bien, j'ai voulu effectivement me réinscrire dans une tradition. Et pour moi, ce qui était très important, c'était de découvrir ou de trouver un lieu dans le monde chrétien qui m'offre d'une part une pratique de transformation spirituelle et d'autre part une tradition vivante de relation entre un père spirituel, un enfant spirituel, un maître et un disciple. Et très très vite, j'ai été orienté sur l'orthodoxie, le christianisme oriental, et puis bon, voilà, après la providence, les hasards des rencontres ont fait que je me suis rendu en Angleterre, au monastère Saint-Jean-Baptiste, fondé par cet ancien père du Mont Athos, le père Sophronie. Et que là, eh bien, c'est là que j'ai découvert la prière de Jésus, qui est pratiquée en office, 2 fois par jour, à raison de 2 heures. Et c'est vrai que, le premier jour, quand je me suis retrouvé le soir dans la petite chapelle du monastère, dans cette semi-obscurité avec juste quelques veilleuses, et que pendant 2 heures, quelqu'un, à tour de rôle, disait comme ça, en murmurant cette prière, ça a été dans différentes langues, en slavon, en anglais, en grec, en français. Ça a été pour moi vraiment une forme de révélation. Et je me suis dit, ah bien, voilà, là j'ai trouvé une pratique qui va me permettre justement de faire le pont avec ce que j'ai vécu dans la méditation zen, mais pour le vivre pleinement dans un cadre chrétien.
Michel-Maxime Heger et sa pratique de la prière de Jésus, qui est une forme de méditation propre à la tradition chrétienne orthodoxe, on l'a compris, Evelyne Auberçon, une tradition qui remonte au 1er siècle du christianisme, mais que l'Occident, notre tradition, a quelque peu oublié, n'a pas conservé.
Ne l'a pas conservé, en tout cas pour le commun des mortels, ce qui n'est justement pas le cas de la tradition orthodoxe. On en comprendra mieux les raisons vendredi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, cette version plus mystique de la vie spirituelle attire beaucoup de gens, une voie plus contemplative que beaucoup de nos contemporains recherchent. D'ailleurs, demain, on va essayer de comprendre comment ça marche, comment la pratique de la méditation permet de rendre le mental plus silencieux pour laisser la place à une dimension plus intérieure de l'être humain.
Merci Evelyne, rendez-vous à 16h30 pour découvrir un petit peu ce qui se passe dans ces méditations où l'approche est moins intellectuelle. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre page internet rts.ch/esprit. Cette émission A Vue d'Esprit consacrée à la méditation chrétienne. On se retrouve demain pour un 3e épisode intitulé « La méditation entre spi et psy ». Et puis, dans quelques minutes après les informations, vous retrouvez Daniel Robella et D'un air entendu. Belle fin d'après-midi à vous tous. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 17h.